Alors Alain Chancinère, il est mathématicien, donc professeur à l'université Paris Diderot. Hein, et c'est avec Alain Chancinère que nous avons créé il y a 20 ans une équipe pluridisciplinaire entre mathématiciens et astronomes. Et en fait, cette équipe s'est créée à l'issue d'un séminaire de 3 ans consacré à la lecture des méthodes nouvelles de la mécanique céleste. Donc, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleur orateur pour parler justement de cette œuvre fondamentale de Poincaré que Alain Chancinère, qui a vraiment été celui qui a le plus contribué à ce séminaire et à cette lecture approfondie de Poincaré. Donc, Alain, je te passe la parole.
Merci Jacques, bonjour. Donc les méthodes nouvelles, j'ai amené la réédition de Blanchard ici. C'est 3 volumes, c'est à peu près 1300 pages, c'est 10 pages de table des matières que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est une œuvre absolument gigantesque. Et non seulement par sa taille, mais par le nombre des idées nouvelles qui se trouvent là. Donc je vais essayer, comme je l'ai dit dans le titre, de faire une promenade dans cette œuvre. Il est bien évident qu'on ne pourra pas rentrer profondément dans aucune des parties, mais peut-être donner en particulier à ceux qui ne l'ont jamais ouvert une idée de ce qu'il peut y avoir dans ce livre tout à fait extraordinaire, enfin dans ces 3 livres. Donc, l'histoire commence en 1889 avec le mémoire que Poincaré présente pour le prix du roi de Suède. Donc, c'est une histoire qui est assez connue, sur laquelle je ne vais pas beaucoup revenir. Peut-être que Vadim en parlera un peu plus. Ce mémoire dont voici l'introduction, et il y a 2 choses importantes dans cette introduction. C'est d'abord le problème qui va l'occuper le plus, qui est ce qu'on appelle le problème restreint des 3 corps. Alors, je vais essayer de me servir de ça. J'ai absolument pas l'habitude de faire des présentations sur transparent. J'aime bien le tableau noir, mais comme le temps est très court, j'ai choisi ça. Voilà, ça marche. Donc, le début ici, voilà, la 3 masses, dont la troisième sera infiniment petite. Pensez au Soleil, à Jupiter et à Cérès, par exemple. Et essayer de comprendre, quand on suppose que le mouvement de Jupiter et du Soleil, du Jupiter autour du Soleil est un mouvement circulaire dans un plan, et que Cérès est dans ce plan, comprendre ce qui se passe. Et alors, voilà l'affirmation de la première version du mémoire, celle qui a dû être retirée de la publication après la découverte de l'erreur de Poincaré. Dans ce cas particulier, j'ai démontré rigoureusement la stabilité. Alors je montre juste la table des matières du mémoire. Le mémoire faisait à l'origine 150 pages, mais les commentaires les demandes de clarification de Mittag Leffler, l'éditeur des ACTA, qui était partie prenante de ce prix, qui avait d'ailleurs suggéré le prix au roi Oscar, a fait que Poincaré a ajouté une centaine de notes d'éclaircissement qui seront en fait intégrées dans la partie publiée ensuite du mémoire. Et ça, c'est le chapitre dont je reparlerai, étude des surfaces asymptotiques, qui a été ajouté dans la version qui finalement est celle qu'on trouve dans les bibliothèques, dans les ACTA de 1890. Alors, c'est l'origine de ces 3 volumes, qui sont parus respectivement en 1892, en 1893 et en 1899. Je vous montre, en quelque sorte, c'est juste pour vous impressionner, pour vous montrer ce qui peut y avoir. Il n'est pas question que vous ayez le temps de lire ces choses. Enfin, les slides seront disponibles sur Internet, vous pourrez regarder. Donc voilà la table des matières du... Ah, ça ne marche plus ? Ah non, c'est pas ça. Ah oui, c'est vrai qu'il faut... Voilà, du premier volume, ça continue... voilà la table des matières du deuxième, ça continue. Voilà la table des matières du troisième. Voilà, et il faut se rendre compte que chaque chapitre contient des choses qui vont faire travailler les mathématiciens pendant le siècle jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore épuisé la richesse de ces 3 volumes. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du problème des trois corps. Donc, je me suis dit que j'allais quand même écrire les équations du problème. C'est des équations que Newton n'a pas vraiment écrites de cette façon. Mais donc l'accélération est à gauche et la force qui s'exerce sur un corps et l'attraction en 1 sur R2. La force en 1 sur R2, donc le potentiel, c'est Lagrange qui introduira le potentiel en 1 sur R. Et en fait, le problème... Alors dans les méthodes nouvelles, Poincaré aborde le problème général des trois corps, mais quand même... le principal sujet de ces recherches est encore le problème restreint. Donc, comme je l'ai dit, on regarde les choses à partir du Soleil, eh bien, on suppose que Jupiter a un mouvement circulaire uniforme, qui est un mouvement keplérien autour du Soleil. Si vous regardez les équations, vous vous rendez compte qu'on peut simplifier à gauche et à droite par mi, donc ça a un sens de parler d'un corps de masse nulle. Ce corps de masse nulle n'influence pas le mouvement du couple Soleil-Jupiter, mais est influencé par le mouvement du Soleil et de Jupiter. Et donc le problème est de comprendre le mouvement de Cérès. Il y a le cas lunaire aussi, qui est le cas où, cette fois-ci, on se place sur la Terre. On regarde le mouvement de la Lune par rapport à la Terre, et à ce moment-là, c'est le Soleil qui va perturber les choses. Autrement dit, la Terre a un mouvement circulaire uniforme autour du Soleil, mais on regarde les choses à partir de la Terre. Donc, dans le premier cas, il y a un petit paramètre. Dans tous ces problèmes de type astronomique, ce n'est pas le problème général des trois corps. C'est un problème dans lequel on est proche d'une situation qu'on comprend. Et la seule situation qu'on comprend en mécanique céleste, c'est le problème des deux corps. Et donc, c'est un pointeur, oui. Oui, mais j'ai pas l'habitude de ces choses. Et dans le cas planétaire, il y a un petit paramètre qui est le rapport de la masse de Jupiter à la masse du Soleil. La masse de Cérès est supposée nulle. Et dans le cas lunaire, au contraire, le petit paramètre, c'est le rapport entre la distance de la Lune à la Terre et la distance de la Terre au Soleil. Le Soleil est très gros, très massif, mais il est très loin par rapport à la distance de la Lune à la Terre et il agit comme une perturbation. J'ai mis ici les dimensions du problème. Il faut se rendre compte que, d'ailleurs, c'est à partir de Poincaré qu'on s'est vraiment rendu compte de ça, qu'on ne comprend à peu près une équation différentielle que quand on est en dimension 2, c'est-à-dire dans le langage ancien, quand on a un couple d'équations différentielles couplées. Et à partir du moment où il y en a plus que 2, c'est-à-dire où on est en dimension plus grande, ça devient extraordinairement compliqué. Et donc j'ai mis ici les dimensions du problème. Pour 3 corps dans R3, il faut se donner pour chaque corps 3 coordonnées de position, 3 coordonnées de vitesse, c'est ça qui va déterminer une trajectoire, ça fait 6. Donc, vous voyez que... si vous regardez, donc j'aurais dû mettre le 18 ici, vous avez 3 fois 6, 18 pour 3 corps, donc vous êtes en dimension 18, mais comme vous pouvez... fixer le centre de gravité en prenant un repère galiléen dans lequel le centre de gravité est fixé, eh bien, vous pouvez supprimer supprimer un des corps. Une fois qu'on connaît le mouvement de deux corps, on connaît le mouvement du troisième puisque le centre de gravité est fixé, donc on enlève 6 dimensions. Il y a aussi ce qu'on appelle la réduction de la symétrie de rotation, où on fixe le moment cinétique et on passe au quotient par les rotations d'axe le moment cinétique. Finalement, on arrive à la dimension 7, ce qui est absolument considérable pour d'un point de vue mathématique. Pour le problème des trois corps dans le plan, on arrive à la dimension 5. Pour le problème restreint, comme la seule chose qui est importante, c'est la position et la vitesse du corps de masse nulle, une fois qu'on a tenu compte de toutes les... Je reparlerai de ce plus 1, moins 1 que j'ai mis ici. On fixe l'énergie, on se ramène à quelque chose en dimension 3, ce qui est déjà plus raisonnable. Et avec justement cette méthode de section de Poincaré que Poincaré a introduit dans le mémoire, et on arrive à la dimension 2. Et là, on peut faire des dessins et on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, ah oui, c'est vrai. Alors, voilà le problème auquel Poincaré arrive après avoir rappelé comment intégrer le problème des deux corps par ce qu'on appelle la méthode de Hamilton-Jacobi en suivant, en fait, la thèse de Tisserand. Et le problème est le suivant. on a une énergie totale, ce qu'on appelle un hamiltonien, avec des équations qui sont écrites ici, voilà les équations. Donc ça, c'est les coordonnées de position, ça, c'est les coordonnées de vitesse, ça, c'est l'énergie totale, le hamiltonien, qui est la somme d'une énergie qui correspond à ce problème de Kepler de deux corps, qui est complètement intégrable, et ici, là, ce qu'on appelle la fonction perturbatrice, qui dépend de ce petit paramètre, qui, dans le cas planétaire, est ce rapport de masse, et dans le cas lunaire, est ce rapport de distance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette partie-là, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, dans le cas du problème de Kepler, le problème de Kepler est un problème très dégénéré, dans lequel, en énergie négative, toutes les solutions de même énergie sont des ellipses de même valeur du demi-grand axe. Et donc, F0 ne dépend que d'une moitié des variables. Alors ici, en fait, j'ai dit quelque chose de faux. Les variables x et y ne sont plus les variables simplement de position et de vitesse. Ce sont des variables, ce qu'on appelle d'action et d'angle, que je vais expliciter dans un instant. Mais d'abord, quels sont les problèmes que se pose Poincaré? D'une part, ce qu'on appelle l'intégrabilité ou la non-intégrabilité plutôt du problème, c'est-à-dire montrer que, contrairement à ce qui se passe pour le problème des deux corps, on n'aura pas des belles formules fermées qui vont donner les solutions. Et aujourd'hui encore, on ne comprend pas l'ensemble des solutions. Et le problème de la stabilité ou de l'instabilité, qui est de savoir si, par exemple, la Lune va un jour s'échapper de l'attraction de la Terre ou, au contraire, tomber, avoir une excentricité de plus en plus grande et entrer en collision avec la Terre. Donc, voilà les deux problèmes. Et donc, voilà ce problème restreint maintenant. Donc, Poincaré étudie plutôt le cas planétaire. Donc, maintenant, l'ellipse que je dessine ici, c'est la trajectoire de Cérès autour du Soleil. Autrement dit, dans une première approximation, ce que fait Poincaré, il n'était pas le seul à faire ça, c'est de dire, pour le moment, l'influence de Jupiter, je l'oublie, et je regarde simplement le couple Soleil-Cérès comme si c'était un problème de deux corps. Et à ce moment-là, je connais les solutions, ce sont des mouvements elliptiques. On est en énergie négative, donc voilà ce mouvement. Simplement, très loin, il y a Jupiter qui a un mouvement circulaire uniforme. Et pour comprendre, pour tenir compte de ce mouvement, Poincaré commence par se placer dans un repère tournant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans un repère tournant? Si on regarde la Lune depuis la Terre, on est dans un repère tournant. Si vous voulez regarder la trajectoire de la Lune par rapport au Soleil, ce n'est pas du tout ce que vous voyez. Si le Soleil est là, si la Terre a une trajectoire comme ça autour du Soleil, eh bien, en fait, la Lune, vous la verrez faire quelque chose comme ça, qui est d'ailleurs une courbe convexe. Mais si vous la regardez par rapport à la Terre, vous allez voir un mouvement à peu près périodique. Pas tout à fait, c'est très compliqué. Et donc, voilà, on se place dans ce repère tournant. Et dans ce repère tournant, qu'est-ce qu'on voit? Dans le repère galiléen, on a un mouvement elliptique. Si le repère tourne comme ça, eh bien, dans ce repère, on aura l'impression que l'ellipse recule. C'est ce qu'on appelle un mouvement de précession. Et donc, on aura quelque chose comme ça. Et maintenant, au lieu d'être périodique, c'est-à-dire de se reproduire exactement de la même façon au bout d'un certain temps qu'on appelle la période, eh bien, le mouvement est ce qu'on appelle quasi-périodique. Il y a deux fréquences maintenant. Il y a une fréquence propre, en quelque sorte, de rotation sur les ellipses approchées, qui est assez rapide, et une fréquence plus lente qui correspond à ce mouvement de précession, à la rotation du repère. Et maintenant, le problème restreint, ça consiste à comprendre dans ce repère quel va être, effectivement, quand on tient compte de la masse de Jupiter, qui est ici le petit paramètre, si on pose égal à 1 la masse du Soleil, eh bien, quel sera le mouvement de Cérès? Donc ce problème-là, quand on ne tient pas compte de Jupiter, est ce qu'on appelle complètement intégrable et stable, on comprend tout ce qui se passe, et maintenant il s'agit de comprendre ce mouvement de Cérès. Alors, voilà ce qu'écrit Poincaré, ça c'est dans le tome 1, paragraphe 36 des méthodes nouvelles, et c'est un passage important. En fait, la clé d'une grande partie de ces recherches va être l'étude des solutions périodiques. Alors on peut se dire, regarder des solutions périodiques, c'est-à-dire des solutions qui vont se reproduire de la même façon au bout d'un certain temps, ça peut paraître très spécial, il faut vraiment des conditions initiales exactement choisies, si on les change un tout petit peu, le mouvement n'aura plus aucune raison d'être périodique. Mais il y a cette phrase célèbre, d'abord Poincaré se dit très bien, c'est, peut-être que ces solutions, toutes les solutions ne sont pas périodiques, mais peut-être que pendant un temps assez long, on va pouvoir approcher n'importe quelle solution par une solution périodique de très très longue période. Et il y a cette phrase célèbre, d'ailleurs, ce qui nous rend ces solutions périodiques si précieuses, c'est qu'elles sont, pour ainsi dire, la seule brèche par où nous puissions essayer de pénétrer dans une place jusqu'ici réputée inabordable. Alors j'espère que vous appréciez le style de Poincaré. Poincaré parle un français magnifique et c'est un plaisir littéraire. D'ailleurs, il a, à la fin de sa vie, il a été reçu à l'Académie française que de lire ce qu'il écrit, même si ça n'est pas toujours évident. Alors, bon, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, pourquoi est-ce que ces solutions périodiques sont très importantes? Alors, peut-être que je devrais revenir à ce transparent ici. Si vous regardez ce mouvement-là, vous voyez qu'en général, vous avez deux fréquences, une comme ça et une comme ça. Et ces deux fréquences vont avoir un rapport. Et suivant la rationalité ou l'irrationalité de ce rapport, eh bien, ou bien, au bout d'un certain temps, ça va se refermer, ça sera un mouvement périodique, ou bien, au contraire, ça ne se referme jamais. Et en fait, si on essaye de tracer ce qu'on obtient sur l'écran d'un ordinateur, par exemple, eh bien, on va voir quelque chose qui, finalement, au bout d'un temps suffisamment long, puisque les molécules d'encre ont une certaine épaisseur, va être en fait dense dans un anneau. Donc, ce qu'on va voir sur l'ordinateur, c'est un anneau tout noir, et ce qu'on appelle un mouvement quasi-périodique. Donc là, on ne se reproduit pas de la même façon, mais on s'y reproduit ici à rotation près. Voilà. Alors, ce transparent qui est un peu plus compliqué essaye d'expliquer pourquoi, donc il y a ce mot magique de résonance, pourquoi les solutions périodiques sont importantes. Alors, il faut comprendre que le système qu'on a écrit, ce sont des équations du second ordre, et donc toutes les choses se passent dans ce qu'on appelle l'espace des phases, et l'espace des phases, c'est à la fois les coordonnées de position et les coordonnées de vitesse. Donc c'est un espace de dimension double de la dimension de l'espace qu'on appelle de configuration des positions des corps. Et dans cet espace, c'est là qu'habite l'équation différentielle. Une équation du second ordre se transforme toujours en équation du premier ordre en prenant comme nouvelle variable les vitesses. Donc on a les dérivées des positions qui sont les vitesses et les dérivées des vitesses qui sont données par la loi de Newton. Et à ce moment-là, une orbite périodique, ça devient une courbe fermée dans cet espace des phases. Et si vous avez maintenant une telle orbite, eh bien, pour le cas du problème dans un repère tournant, vous avez aussi, ou le cas même dans un repère fixe, vous avez aussi non seulement cette orbite, mais celle que vous pouvez obtenir en faisant une rotation. Vous savez bien que si vous prenez un certain nombre de données initiales du problème, et si vous faites une rotation à la fois sur les positions et les vitesses, à cause de l'invariance des équations par ces rotations, vous avez encore une solution des équations. Donc si vous avez une solution, vous en avez en fait une infinité en la faisant tourner dans l'espace de configuration. Dans l'espace des phases, ça va consister à prendre cette solution, prenons une solution périodique par exemple, et à avoir une famille de solutions qui va engendrer ce qu'on appelle un tore, une chambre à air. Mais maintenant, il y a une grande différence entre le cas d'une solution périodique et le cas d'une solution quasi-périodique. Si la solution est périodique, vous voyez que ce tore, alors j'ai dessiné un cas simple où la solution est très simple comme ça, eh bien ce tore c'est simplement une réunion finalement de solutions mais qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Et ça, ça a toutes les chances, si vous faites une petite perturbation des équations, de se casser et de disparaître. Il n'y a pas de raison dynamique de l'existence d'un tel objet invariant, d'un tel tore formé solutions du problème. Par contre, si la solution est quasi-périodique, donc là j'ai essayé de la dessiner en rouge, bien sûr j'ai arrêté au bout d'un certain temps, et que vous prenez toutes les autres qui sont obtenues par rotation, vous obtenez aussi un tore, mais ce tore-là, comme il est ce qu'on appelle en mathématiques l'adhérence d'une solution donnée, c'est-à-dire que chaque point est arbitrairement près d'un point de la solution rouge, eh bien peut-être que lui peut avoir une chance de persister et de résister à une perturbation. Et en fait, il est dynamiquement défini et je montrerai la phrase un peu plus tard de Poincaré qui laisse ouverte cette possibilité, et c'est un des résultats majeurs de dynamique du XXe siècle, qui est la théorie de Kolmogorov, Arnold Moser, qui montrera qu'effectivement, pour certains types, il ne suffit pas d'être quasi-périodique, il faut être quasi-périodique avec en plus des conditions arithmétiques, eh bien, de tels torts pourront persister. Alors en fait, d'autre part, si on revient aux solutions périodiques, ce tort en général va se briser à cause de la perturbation quand on fait mu différentes zéros, et on va obtenir des solutions périodiques isolées. Je vais montrer une image, le transparent suivant, et ces orbites périodiques auront ce qu'on appelle des exposants, des solutions asymptotiques, et tout ça c'est défini par Poincaré dans le tome 1, je donne les références, et c'est l'outil principal de démonstration de la non-intégrabilité du problème. Qui est lié à l'existence de suffisamment de coefficients de Fourier non nuls dans la fonction perturbatrice. Donc c'est les chapitres 5 et 6 qui sont parmi les plus difficiles du livre. Alain, tout à l'heure, parlera de non-intégrabilité. Je ne pense pas qu'il parlera de ça, mais c'est sans doute un des meilleurs connaisseurs de ces chapitres que peu de gens ont vraiment lu. Alors voilà le dessin dont je parlais. En bas, vous êtes dans l'espace de configuration. Donc imaginez que vous avez cette orbite périodique, mais qui fait un certain nombre de tours avant de se refermer, et vous la faites tourner. Hein ? Donc vous avez aussi ces images par rotation, et tout ça engendre un anneau, en quelque sorte. Hein ? Et ici, c'est le tore dans l'espace des phases. Vous avez l'orbite en bleu, et puis toutes celles qu'on obtient par rotation. Et quand ça se casse sous l'effet de la perturbation, ben il ne reste plus qu'un nombre, ici j'en ai laissé deux, une rouge, une bleue et une verte, hein, et les autres orbites vont faire des choses beaucoup plus compliquées. Donc ça c'est dans l'espace de phase, et ça c'est dans l'espace de configuration, vous verrez deux solutions périodiques, et puis les autres solutions, ben, elles feront des choses très compliquées. Donc voilà la chose importante. Alors là, vous n'êtes pas obligé de lire ça, c'est juste pour vous dire quelles sont les variables petit x et petit y qui apparaissaient dans l'expression du problème fondamental de la dynamique, ce qu'on appelle les variables de Delaunay. Delaunay est célèbre pour sa théorie de la Lune, et en particulier pour cette intégration du problème des deux corps. Et simplement, voilà le mouvement keplérien, dont on est dans le repère galiléen, c'est une ellipse, et les coordonnées sont reliées à l'énergie, c'est-à-dire à la valeur du demi-grand axe de l'ellipse, au moment cinétique, E c'est l'excentricité de l'ellipse, hein, et maintenant ça c'est les variables d'action, hein, c'est les variables x, hein, le F0 de tout à l'heure ne dépend que de ces variables, et au contraire, vous avez les variables angulaires qui sont d'une part la longitude du périhélie, hein, G, par rapport à un repère cartésien donné, et ce qu'on appelle l'anomalie moyenne, qui est la proportion d'air balayé, et c'est la troisième loi de Kepler, hein, la relation entre les valeurs des cubes des demi-grands axes et la fréquence, le carré de la fréquence. Et donc voilà les équations, qui sont les équations qu'on appelle de Hamilton, hein, comme ce Fk, en fait, ne dépend que de grand L, hein, il ne dépend ni de grand G, ni de petit L, ni de petit G, eh bien, les équations sont très simples. Grand L est constant, hein, vous avez une ellipse de demi-grand axe constant, elle est fixe. Grand G est constant, l'excentricité est constante. Petit G est constant aussi, le périhélie ne bouge pas, c'est toujours la même ellipse. Et la seule chose qui varie, c'est petit L qui varie proportionnellement au temps, et vous retrouvez cette troisième loi de Kepler. Alors, si vous êtes dans un repère tournant, la seule chose qui change, c'est ce terme de moment cinétique. Vous ajoutez ce grand G au F0, et vous voyez que ce F0 ne dépend toujours pas des variables angulaires, des petits L et petits G. Et quand vous écrivez les équations, c'est toujours pareil. Petit L et petit G vont varier, mais grand L et grand G ne vont pas varier, parce que F0 ne dépend pas des angles. Donc voilà le problème général de la dynamique dont parle Poincaré. Dans ce cas, vous avez ce F0 qui ne dépend que des variables X, qui sont grand L et grand G, et la fonction perturbatrice qui dépend de tout le monde. Et ici, maintenant, c'est l'angle G-T, parce que vous êtes dans le repère tournant. Et j'ai supposé que la fréquence de rotation de Jupiter est 1. Hein, on fait des mathématiques en ce moment. Alors maintenant arrive une notion très importante qui est la notion de région de Hill. Poincaré avait une très grande admiration pour Hill, qui était un astronome américain. On raconte même que quand il est arrivé aux États-Unis, il a dit à Hill, vous êtes la seule personne que je voulais rencontrer aux États-Unis. Hill a fait des recherches très profondes sur la Lune, et en particulier est le premier à avoir donné une sorte de résultat de stabilité. C'est un résultat dans une certaine mesure assez faible, qui n'est pas très applicable, mais qui quand même est un résultat, et ce qui est important pour Poincaré, c'est que c'est un résultat qualitatif, hein, c'est un résultat de nature topologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En haut, vous avez l'espace des phases, en bas, vous avez l'espace de configuration. Donc ça, c'est la projection où, en quelque sorte, on oublie, ici, on a position-vitesse, et ici, on oublie les vitesses, et on n'a que les positions. Et ça, ça représente... Vous rappelez qu'on a cette énergie totale, F, ce Hamiltonien, et ça représente simplement les surfaces, les hypersurfaces F égale constante. Alors, il faut se rendre compte que là, on est en dimension 4, donc ces hypersurfaces sont de dimension 3, elles sont définies par une équation. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la projection de ces surfaces sur l'espace de configuration. Alors, comme l'énergie est conservée, c'est un système Hamiltonien, il se trouve, ça c'est ce qu'on appelle l'intégrale, j'aurais dû dire que ça s'appelle l'intégrale de Jacobi, et bien qu'on soit dans un repère tournant, le Hamiltonien lui-même ne dépend pas du temps, c'est à cause de l'invariance par rotation, c'était le plus 1 moins 1 de tout à l'heure. Et vous avez les solutions du système, elles habitent sur ces surfaces. Hein, l'énergie reste constante. Et donc, quand vous les projetez, ben elles vont rester sur leur projection dans l'espace de configuration va rester sur ces surfaces. Et en particulier, si le F est très négatif, donc là j'ai pris une convention opposée à celle de Poincaré, il change de signe, eh bien, voilà à quoi ressemble la surface F égale constante. Elle a trois composantes connexes. Alors il faut se rendre compte que les verticales ici sont de dimension 2, ce sont des R2 en fait, donc ça c'est de dimension 3, c'est le produit d'un cercle par un R2, hein, ce qu'on appelle un tore solide ouvert, ça aussi, et ça c'est le troisième. Et quand vous les projetez, eh bien, vous trouvez la région, une certaine région autour du Soleil, une certaine région autour de Jupiter et une certaine région autour de l'infini. Et ce sont, si la valeur de l'énergie de Cérès, par exemple, était telle, mais je n'ai pas réussi à trouver un astronome qui me dise où se trouve Cérès, donc je ne suis pas sûr que ça s'applique à Cérès, mais peu importe, n'importe comment Poincaré regarde ce problème-là, ça s'applique ? Merci. Donc c'est le problème que regarde Poincaré, et donc Cérès... si elle est dans cette région-là, ne pourra pas s'en échapper, pour une raison purement topologique, de forme de l'hypersurface d'énergie. C'est une des premières fois qu'on utilise vraiment un argument de type topologique pour obtenir un résultat de stabilité. Et Poincaré est très enthousiaste, par exemple, dans l'introduction des œuvres complètes de Hill. Il a vraiment des mots très forts. Je n'ai pas pensé à mettre un transparent. Donc, en fait, on saura ici. Simplement, cette forme de stabilité, elle n'empêche pas Cérès d'avoir une excentricité qui va augmenter et de tomber un jour sur le Soleil. Donc, ça n'est pas quand même une forme complète de stabilité. Alors, il y a un problème avec les coordonnées de Delaunay. Si vous vous rappelez, vous ne vous rappelez pas, mais les coordonnées de Delaunay demandent qu'on ait un angle G, par exemple, un périhélie. Mais si l'ellipse est circulaire, si l'excentricité est égale à zéro, on n'a pas de périhélie. Par contre, dans ce cas-là, le G plus L devient un angle simplement, cette proportion d'air balayé, et le G plus L garde un sens comme simplement, sur le cercle, la coordonnée angulaire du corps par rapport à l'axe horizontal. Et c'est ce que utilise Poincaré pour faire un changement de coordonnées, qu'on appelle aujourd'hui les coordonnées de Poincaré. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'ai reçu en référé un article de gens qui voulaient montrer l'analysité des coordonnées de Poincaré. Et ma réponse a été que si vous regardez non pas les méthodes nouvelles, mais les leçons de mécanique céleste parues plus tard, au début du XXe siècle, eh bien, il y a une démonstration parfaite de Poincaré en grand détail qui démontrait même plus que dans cet article. Et donc voilà ces coordonnées, alors peu importe la forme exacte, mais vous voyez que vous avez ces L moins G et ces L plus G. Et alors, s'il y a des topologues dans la salle, il y a un détail amusant, c'est que pour ces valeurs de la constante de Jacobi très négative qu'on regarde, eh bien, en fait, Vous êtes sur cette composante connexe de la surface d'énergie qui est, homéomorphe à S1 croix R2, un tore solide ouvert, et vous lui avez ajouté en fait quelque chose à l'infini sans le dire, parce que Poincaré ne dit jamais qu'il exclut les collisions. Alors, il y a un problème mathématique parce que les choses ne seront pas régulières aux collisions, je ne vais pas en parler, mais en tout cas, d'un point de vue topologique, ce que vous obtenez ici, c'est un espace qui est obtenu en prenant ce tore solide ouvert, en lui ajoutant un cercle à l'infini, et ça devient un SO3, un espace projectif réel de dimension 3, c'est-à-dire le quotient de la sphère S3 par l'antipodie. Et en fait, ces coordonnées ne sont pas univoques, elles sont ce qu'on appelle elles font un revêtement à deux feuillets. Il y a deux points dans l'espace de ces coordonnées qui correspondent à un seul point ici. Et dans le mémoire, Poincaré remarque ça de façon très claire. Il dit, voilà, il y a deux points qui correspondent au même. Et dans les méthodes nouvelles, il l'oublie complètement et il dit, c'est biunivoque. Mais ça, c'est Poincaré. Donc, voilà, il faut comprendre que dans cet espace des coordonnées x, y, on est en fait dans ce revêtement à deux feuillets du projectif, on est dans une sphère de dimension 3. Et cette sphère de dimension 3, une sphère de dimension 3, si on lui enlève un point, disons un point qu'on va appeler l'infini, ça devient un espace R3. Et dans un espace R3, on peut introduire des coordonnées globales. Et c'est ce que fait Poincaré. Alors, je crois que j'ai pas mis les formules, mais il a des formules explicites de type coordonnées polaires pour donner des coordonnées dans cet espace R3. Donc, il faut comprendre que cet espace R3, c'est l'avatar de cette composante connexe de la surface d'énergie constante S1 croix R2, à laquelle on a rajouté quelque chose à l'infini, qui ici va correspondre à une certaine courbe, mais je n'en parlerai pas, parce que Poincaré ne s'intéresse qu'aux excentricités assez faibles. Et on est dans une sphère S3, donc on a fixé l'énergie assez négative, cette constante de Jacobi, et dans cette sphère S3, il y a des coordonnées grand X, grand Y, grand Z, qui sont explicitement données par Poincaré, et on a deux solutions particulières pour le problème non, parce que j'allais dire non perturbé, mais le mot de Poincaré est beaucoup plus joli, c'est le problème non troublé. Et Poincaré remarque qu'effectivement, quand vous êtes dans un repère tournant, vous avez deux orbites particulières, deux solutions particulières du problème de Kepler qui jouent un rôle particulier, qui sont les solutions circulaires. Et pour une énergie de Jacobi donnée, vous avez une solution circulaire directe et une solution circulaire rétrograde. Et dans l'espace des phases, dans cette énergie-là, j'ai dessiné en rouge la solution circulaire directe, et elle reste circulaire dans le repère tournant, bien sûr, quand vous faites une rotation, et j'ai dessiné en vert la circulaire rétrograde, dont on a enlevé un point qu'on appelle l'infini. Donc voilà la situation, vous êtes dans R3 avec des coordonnées explicites, et vous avez, pour le problème non perturbé, deux solutions qui correspondent aux solutions circulaires, et qui, dans ce R3, sont représentés respectivement par un cercle et par une droite qu'il faudrait compléter par le point à l'infini. Alors, c'est là que... Là, je saute au troisième volume, chapitre 27-33. C'est là qu'apparaît cette idée fondamentale de Poincaré, qui est cette idée de surface de section. Il y a une chose que je veux dire, c'est que vous êtes dans ce... Voilà les coordonnées, la figure est peut-être un petit peu difficile à lire, vous êtes dans les coordonnées x, y, z, vous avez ces deux solutions particulières, et qu'est-ce que fait Poincaré? Il regarde le plan qui passe par la solution verte, donc le plan grand Y égale 0, le plan du tableau. Et il dit, quelles sont les autres solutions? Mais les autres solutions, pour le problème non troublé, ce sont des solutions périodiques ou quasi-périodiques dans l'espace de configuration qui, dans l'espace des phases, comme on l'a dit, vont habiter sur des tores. Des tores de dimension 2, c'est chambres à air. Et donc, j'en ai dessiné une qui n'est pas du tout réaliste. Mais si vous partez d'un point de ce plan, vous suivez cette solution, vous allez y revenir. Mais comme vous étiez sur un tore, si vous regardez l'intersection du tore avec ce demi-plan, c'est un cercle. Et donc, quand vous revenez, vous arrivez à un point sur le même cercle. Cette application qui, à un point donné, fait correspondre ce qu'on appelle le point de premier retour, c'est l'application de premier retour ou application de Poincaré, c'est une des inventions de Poincaré, enfin il y en a beaucoup d'autres, et qui réduit en quelque sorte à la dimension 2 l'étude des solutions de cette équation différentielle une fois que vous avez fixé l'énergie, c'est-à-dire la constante de Jacobi. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous essayez de l'interpréter, essentiellement, Alors, ce sera peut-être plutôt pour les périhéliques, pour les aphélies, mais c'est plus facile de dessiner les aphélies. Ça correspond essentiellement à regarder cette solution quasi-périodique ou périodique non troublée et à regarder ce qu'on appelle le retour des aphélies, c'est-à-dire la première fois que vous revenez à une aphélie, c'est-à-dire à un point le plus distant. Donc ça, ça mime à peu près ce que fait cette application de premier retour, un changement de coordonnées près. Donc vous avez une interprétation de cette application comme un retour des aphélies. Et vous voyez bien que pour le problème non troublé, ben, tout ça se trouve sur un cercle, et c'est en fait à cause de l'invariance par une rotation, cette application est une bonne rotation dans des coordonnées bien choisies. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le mouvement troublé, c'est-à-dire quand on ajoute Jupiter ? Ben, quand on ajoute Jupiter, là, il faut revenir au tome 1 et à toute l'étude de l'existence de solutions périodiques par des méthodes qui en fait, anticipent ce qu'on appellera aujourd'hui la théorie des singularités, où il y a énormément de résultats mathématiques. Et Poincaré montre que si mu est assez petit, si la masse de Jupiter est supposée suffisamment petite par rapport à celle du Soleil, eh bien, il persiste deux orbites qui ressemblent aux orbites circulaires. C'est-à-dire, dans le repère tournant, vous allez voir, effectivement, vous avez ici le Soleil, là, vous avez Jupiter, et dans le repère tournant, vous allez voir une orbite qui ne sera pas vraiment circulaire, mais qui sera fermée dans le repère tournant et qui sera une solution des équations. Et de la même façon pour l'orbite rétrograde. Donc c'est ce que j'ai dessiné ici en rouge et en vert. Et alors, vous pouvez aussi construire une surface qui n'est plus un demi-plan, mais qui est une surface qui a cette propriété de rencontrer transversalement toutes les autres solutions et définir une application de premier retour. Alors j'ai fait des petits dessins à côté parce que aujourd'hui, plutôt que de parler de regarder ce demi-plan, on ajoute le point à l'infini. Et si vous ajoutez le point à l'infini, ce que vous obtenez, c'est un disque. Hein, le point à l'infini serait quelque part, voilà. Et l'application non troublée dans des coordonnées bien choisies sera simplement une rotation. Ça, ce sont la trace des tors invariants qui sont simplement obtenus en prenant une orbite périodique ou quasi-périodique et ces images par les rotations. Et voilà ce que vous obtenez maintenant pour le problème troublé. Vous avez toujours cette solution périodique qui est en vert ici. Vous avez un disque. Vous avez une application de premier retour. Alors ça c'est la trace de l'orbite périodique de Hill circulaire. Et je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, ce sont les orbites que Hill prend comme première approximation du mouvement de la Lune. Et vous pouvez construire une surface de section qui est maintenant un plan un petit peu gondolé ou qui est difféomorphe, homéomorphe à un disque. Et vous avez là-dessus une application qui est une application de premier retour. Et c'est ça qu'il s'agit d'étudier. Et si vous comprenez la dynamique de cette application, c'est-à-dire ses itérations, comment elle se comporte par itération, vous comprenez qualitativement la structure du flot défini par les équations de Newton. Alors voilà maintenant une chose fondamentale aussi, introduite par Poincaré, qui est l'invariant intégral. Alors ce n'est pas la première fois, il y a Liouville, je ne vais pas faire l'histoire, je ne suis pas historien, mais c'est la première fois qu'il est vraiment conceptuellement introduit de cette façon-là, et introduit d'une façon d'ailleurs qu'on ne retrouve pas malheureusement aujourd'hui dans la plupart des cours de dynamique, et c'est bien dommage. Cette application de premier retour dans un disque, elle a une propriété fondamentale, ce n'est pas n'importe quoi. Elle préserve ce qu'on appelle aujourd'hui une mesure lisse par rapport à la mesure de Lebesgue, c'est-à-dire une mesure de masse totale finie, une mesure de probabilité, si vous voulez. Disons que dans des coordonnées bien choisies, c'est une application qui va préserver les aires. C'est-à-dire, si vous prenez... Où est-ce que j'ai mis ma craie ? Si vous prenez... Donc voilà ce disque. Si vous prenez une région ici, et vous regardez son image par l'application P, elle peut être très tordue, mais l'air va être la même. Donc c'est une propriété fondamentale qui vient du caractère hamiltonien, du caractère conservatif des équations. Et Poincaré, en fait, fait une théorie dans le troisième volume, au début du troisième volume, dans le chapitre 22, de ces invariants intégraux, et il les introduit d'une très jolie façon en disant que, en quelque sorte, il ne le dit pas comme ça, ça c'est moi qui le dis comme ça, mais c'est une sorte d'ersatz de ces intégrales premières autres que l'énergie et le moment cinétique qui n'existent pas, dont il a montré dans le premier volume qu'ils n'existent pas. Et ce sont des intégrales premières, en quelque sorte, de l'équation aux variations. C'est-à-dire, elles sont infinitésimales le long d'une solution. C'est une façon d'y penser. Alors, un corollaire, pour montrer, par exemple, que ces applications de premier retour ne sont pas n'importe quoi, un corollaire de la préservation des airs, eh bien, c'est que si vous prenez une courbe et vous regardez son image, eh bien, il est clair qu'elle doit intersecter son image. Parce que si elle était contenue dedans, si l'image d'une courbe était dedans, eh bien, évidemment, l'air ne serait pas préservé. Et ça, c'est une propriété très importante pour trouver des orbites périodiques. Alors, j'ai marqué ici, je ne sais pas si c'est lisible, on dit que les équations canoniques préservent ce qu'on appelle la structure symplectique de l'espace des phases. Donc, je n'ai pas le temps d'en parler. C'est Élie Cartan, le premier grand livre d'Élie Cartan, enfin, le premier livre d'Élie Cartan s'appelle « Les invariants intégraux » et sera une élaboration en particulier de ce qu'a fait Poincaré. Alors maintenant, on en arrive à la dernière partie, à la recherche de la stabilité. Donc, rappelons-nous, ce qui se passe pour le mouvement non troublé où on a tous ces torts invariants qui correspondent à ces orbites quasi-périodiques et à leurs images par les rotations, on a simplement une famille de rotations. Alors, il faut faire attention, la rotation définie par cette application de premier retour n'est pas la même, elle dépend du moment cinétique, elle dépend du tort sur lequel vous êtes. Donc, on a ce qu'on appelle une distorsion monotone ici. Si vous prenez l'image d'un rayon, ça va être un rayon tordu. C'est une famille de rotations, mais vous avez cette infinité dense de courbes invariantes. Et comme cette rotation varie, l'angle de rotation varie, eh bien, il y a une infinité dense de ces courbes sur lesquelles l'application de premier retour sera une rotation périodique. Ça correspondra à des solutions périodiques. Et il y a une infinité dense sur lesquelles ça sera au contraire quasi périodique. Ça ne sera pas périodique. L'angle de rotation ne sera pas rationnel à 2π. Et ça correspond dans le deuxième volume, qui est un volume qui n'est pas facile à lire, à ce qu'on appelle la convergence des séries de Lindsted à fréquence variable. Ces séries de Lindsted sont des expressions de solutions quasi-périodiques ou périodiques qui représentent justement les solutions appartenant à cet ordre invariant, ces solutions quasi-périodiques. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute Jupiter pour le mouvement troublé? Eh bien, si vous rappelez une des figures que j'avais faites, où vous voyez ce tore formé de solutions périodiques se casser et ne plus laisser qu'un nombre fini de solutions périodiques, eh bien, c'est ce qui se passe. Par exemple, ici, j'ai pris un cercle sur lequel la rotation serait périodique de période 3, tous les points seraient de période 3, et la perturbation va le casser, et il ne restera plus qu'ici deux orbites périodiques, c'est-à-dire 6 points, correspondant à deux orbites périodiques de période 3. Et ces points vont être ce qu'on appelle génériques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des exposants, ce qu'introduit Poincaré aussi dans le premier volume, je n'ai pas le temps vraiment d'en parler, et il y en a qui seront ce qu'on appelle elliptiques, d'autres qui seront hyperboliques, et ils auront ce qu'on appelle des variétés stables et instables, qui vont être fondamentales dans la suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que, je l'avais dit, maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle divergence des séries de Lindsted à fréquence variable, c'est-à-dire que si elles convergeaient essentiellement, on aurait la même figure qu'ici, avec des familles de tores invariants qui feuillettent l'espace des phases, et ça n'existe pas. Donc il y a cette divergence qui est prouvée par Poincaré dans le tome 2, dans le chapitre 13, et simplement, il y a ce fameux paragraphe 149 où Poincaré laisse la possibilité de la convergence qu'on appelle la fréquence fixée qui serait de dire, mais supposez que je regarde ici un tore qui correspond à une solution quasi-périodique et à ses images par rotation, mais que cette solution quasi-périodique remplisse suffisamment bien le tore avec des conditions arithmétiques de façon à ce que peut-être elle résiste à la perturbation. Et ça sera justement la théorie CAM. Alors Poincaré considère cette possibilité comme fort invraisemblable, mais c'est quand même assez remarquable qu'il se rende compte qu'il y a cette possibilité. Il dit, voilà, supposons pour simplifier qu'il y ait 2 degrés de liberté, ce qui est notre cas, les séries ne pourraient-elles pas, par exemple, converger quand les données initiales ont été choisies de façon à ce que le rapport des fréquences soit incommensurable, ça c'est quasi périodique donc, et que son carré soit au contraire commensurable, etc. Les raisonnements de ce chapitre ne me permettent pas d'affirmer que ce fait ne se présentera pas. Tout ce qu'il m'est permis de dire, c'est qu'il est fort invraisemblable. Donc, il était parfaitement conscient qu'il y avait cette possibilité à laquelle il ne croyait pas trop, et ça sera la théorie de Kolmogorov, Arnold, Moser. Alors, maintenant, j'en arrive à l'erreur. Combien de temps il me reste ? Bon, c'est parfait. L'erreur du mémoire. L'erreur du mémoire, si vous vous rappelez, on est dans ce disque, on a cette application de premier retour, et cette application de premier retour, on a ces tores périodiques qui se sont cassés en un nombre fini d'orbites périodiques chacun, et j'ai dessiné ce qui se passe pour l'une d'entre elles. Et il y a ce qu'on appelle les variétés asymptotiques, ou qu'aujourd'hui on appelle les variétés stables ou instables, qui sont des points qui, si vous connaissez l'espace des phases du pendule, c'est exactement ce qui se passe dans un pendule. Dans un pendule, si vous choisissez bien la donnée initiale, eh bien, en un temps infini, vous allez arriver à la position d'équilibre instable d'un côté, ou vous pouvez y arriver aussi de l'autre en un temps infini. Et ça, c'est exactement ce qui se passe le long de ces solutions, l'application de premier retour. Ici, c'est une solution périodique. Le point est envoyé sur celui-là, et revient ici. Mais si vous prenez un point ici, mais il va aller ici, et puis ici, mes flèches n'ont pas l'air correctes. J'ai dû me tromper dans les flèches. Et au bout d'un temps infini, il va arriver à ce point-là. Et la même chose dans le temps moins l'infini. Et Poincaré, dans le mémoire, en fait, et c'est ça son erreur, pense que ces courbes sont des courbes analytiques. L'écart ici est en racine du petit paramètre, et vous pouvez écrire des séries donnant les équations de ces courbes, des séries formelles. Et Poincaré pensait que ces séries convergeaient, il n'avait pas vraiment vérifié. En fait, ces séries divergent, et c'est ça l'erreur du mémoire, c'est qu'à tous les ordres de perturbation, donc on peut comprendre l'erreur, à tous les ordres de perturbation, cette courbe-là, c'est-à-dire les points qui sont négativement asymptotes à celui-là et les points qui sont positivement asymptotes à celui-là, ces deux courbes coïncident, mais à des termes exponentiellement petits, elles diffèrent. Et c'est là ce qui se passe dans le dessin de ce qui se passe dans la situation perturbée. Vous avez ces courbes qui s'intersectent transversalement avec un angle d'intersection exponentiellement petit. Sans doute que Vadim parlera plus de cette situation. Et ça correspond à la divergence en racine de mu de ces séries qui définissent respectivement ces points qui sont négativement asymptotes à celui-là et ces points qui sont positivement asymptotes à celui-là. Enfin, il faut itérer trois fois chaque fois pour revenir dans la même région. Et ça ne se voit à aucun ordre de la théorie des perturbations. Et le fait que cet angle est exponentiellement petit est repris dans le tome 2, au paragraphe 226. Vous avez des expressions asymptotiques avec des exponentiellement petits. Et donc, en fait, ça n'est pas intégrable. Et ces solutions, les points d'intersection et leurs itérés, c'est ce qu'on appelle les solutions homoclines, transverses, correspondent à ce que Poincaré appelle la divergence des séries de Bolin. Ça, c'est dans le tome 2, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Mais donc, le résultat, c'est qu'il y a une probabilité non nulle pour que, partant d'un point ici, avec beaucoup de temps, vous puissiez vous échapper. Ça n'est pas une barrière étanche, comme ça l'était ici. Ça lui donnait un résultat de stabilité. Une fois que vous étiez là, vous restiez dans cette région, vous ne pouviez pas vous en échapper. C'était ça, j'ai démontré rigoureusement la stabilité. Par contre, ici, vous avez une probabilité faible, mais non nulle, de s'échapper. Alors, il y a cette fameuse phrase où Poincaré n'essaye même pas de dessiner le dessin, le treillis, que l'on cherche à se représenter la figure formée par ces deux courbes et leurs intersections en nombre infini, dont chacune correspond à une solution doublement asymptotique. Ces intersections forment une sorte de treillis, de tissu, de réseau à mailles infiniment serrées. Chacune des deux courbes ne doit jamais se recouper elle-même, mais elle doit se replier sur elle-même d'une manière très complexe pour venir recouper une infinité de fois toutes les mailles du réseau. On sera frappé de la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer. Rien n'est plus propre à nous donner une idée de la complication du problème des trois corps et en général de tous les problèmes de dynamique où il n'y a pas d'intégrale uniforme et où les séries de Bolin sont divergentes. C'est un très beau français. Et effectivement, Aujourd'hui, avec à l'aide des ordinateurs, on a des très belles images de ces choses que je vais montrer. Mais la dernière chose que je veux montrer, c'est comment est-ce qu'il récupère cette stabilité. Déjà dans le mémoire de 1890, en fait, c'est avec ce qu'on appelle aujourd'hui le théorème de récurrence, qui est le fait que, puisqu'on a cette R qui est de masse totale finie, qui est préservée, eh bien, on peut montrer que, en fait, pour presque tout point dont on part, quand on itère indéfiniment l'application de premier retour, on va revenir forcément une infinité de fois arbitrairement près de ce point. Et c'est ce qu'il appelle la stabilité à la Poisson, parce que Poisson avait montré qu'au deuxième ordre de la théorie des perturbations, au deuxième ordre en Lemmas, il n'y a pas ce qu'on appelle le terme séculaire pur dans les développements en série, ce qui fait que les demi-grands axes des ellipses osculatrices des mouvements des planètes vont revenir indéfiniment au voisinage des valeurs qu'elles ont aujourd'hui. Donc c'est une forme de stabilité, et c'est celle qui reste aujourd'hui. Alors, c'est absolument remarquable la façon dont Poincaré comprend les probabilités. La théorie des probabilités, formellement, n'était pas vraiment développée. Bien sûr, il y a eu Laplace, il y a eu des tas de choses, mais c'est vraiment Kolmogorov qui fondera la théorie moderne des probabilités. Et, par exemple, Joseph Bertrand avait une peur atroce des probabilités continues, parce qu'il disait qu'il y a un choix arbitraire de la densité par rapport à la mesure donnée par les coordonnées. Et quand on change de densité, qu'est-ce qui va se passer ? Poincaré comprenait très bien que ça ne va pas changer ce qu'on appelle aujourd'hui les ensembles de mesures nulles, c'est-à-dire le fait qu'un événement est infiniment peu probable. Et il comprend ça parfaitement. Donc, il a les ensembles de mesures nulles, en quelque sorte, avant Borel et Lebesgue. Et ce théorème est ce qu'on appelle l'ancêtre de la théorie ergodique aujourd'hui, qui est une théorie extrêmement vivante et développée. Alors, voilà, j'ai montré ce qui se passe dans ce que Poincaré dit. Alors, il est très pudique dans le mémoire corrigé sur l'erreur. Il dit qu'il y avait une erreur, mais il ne l'explique pas. Et il dit, dans le cas du problème restreint, j'ai reconnu que dans ce cas, les trois corps repassent une infinité de fois aussi près que l'on veut de leur position initiale, à moins que les conditions initiales du mouvement ne soient exceptionnelles, c'est-à-dire de mesure nulle. Alors, dans les méthodes nouvelles, il est plus affirmatif, dans le chapitre 26 du tome 3, il parle de stabilité à la Poisson, et il dit, voilà, si donc Poisson a cru pouvoir répondre affirmativement à la question de la stabilité telle qu'il l'avait posée, bien qu'il eût exclu le cas où le rapport des moyens mouvements est commensurable, nous aurons de même le droit de regarder comme démontrer la stabilité telle que nous la définissons, bien que nous soyons forcés d'exclure les molécules exceptionnelles dont nous venons de parler. Donc, il veut réintroduire quand même la stabilité qui était perdue à cause de l'erreur dans la première version du mémoire. Alors, en conclusion, j'ai mis une figure ici qui est ce qu'on comprend aujourd'hui, très schématiquement, de cette application de premier retour. Essentiellement, vous avez la théorie Kolmogorov-Arnold-Moser qui vous dit qu'il existe des courbes invariantes qui correspondent à ces mouvements quasi-périodiques. J'ai dessiné ici en pointillé, c'est ce qu'on appelle ce seraient des ensembles de Cantor invariants. Alors, les courbes invariantes, ça correspond à des orbites quasi-périodiques qui ont une caustique, qui est une courbe lisse, qui est proche d'un cercle. Ces ensembles d'Aubry-Mather ou de la théorie Kampffebvre, qui seraient des cantors invariants par l'application de premier retour, ça correspondrait à des mouvements qui ne sont pas quasi-périodiques, mais qui ne sont pas périodiques non plus, et qui ont une sorte de caustique, mais qui est un ensemble de cantors. Si vous regardez l'ensemble des périhélies, ça va être un ensemble de cantors proche d'un cercle. Et puis, vous avez les orbites périodiques elliptiques, les orbites périodiques hyperboliques, et c'est ce qu'on appelle le homoclinic tangle, je ne sais pas comment on dit en français, qui est l'intersection de ces variétés stables et instables que Poincaré n'osait pas tracer, qui est tracé de façon très schématique ici et qui est beaucoup plus compliqué. Voilà. Voilà, je voulais finir par cette phrase de Tom que j'aime beaucoup et qui s'applique, à mon avis, très bien à cette erreur de Poincaré. Le contraire du vrai, ce n'est pas le faux, c'est l'insignifiant. Merci.
Bien, merci beaucoup pour ce panorama des méthodes nouvelles, parce que quiconque, je pense, essaie ou a essayé de lire les méthodes nouvelles serait avisé de reparcourir ce panorama avant de s'y engager, quoi, comme un peu guide. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions dans le...
Non. Henri Mineur est considéré aujourd'hui comme un co-auteur de ce qu'on appelle le théorème de Liouville-Arnold sur l'existence des coordonnées action-angle. Mais je ne connais pas de contribution à CAM d'Henri Mineur. Mais effectivement, les coordonnées action-angle, aujourd'hui, on devrait les appeler Liouville-Mineur-Arnold, ou Arnold-Mineur, je ne sais pas.
D'autres questions ? Peut-être tu peux nous dire alors quel est l'état de la figure là, pour les systèmes à 2 degrés de liberté, donc les plus simples. Qu'est-ce qu'on en connaît aujourd'hui et...
Je l'ai dit à peu près. Alors, je peux dire quels sont les problèmes, mais peut-être que Vadim en parlera aussi. Par exemple, Poincaré conjecturait, dans un cas comme ça, que les solutions, que les orbites périodiques sont denses. À ma connaissance, on ne sait toujours pas montrer ça. Aujourd'hui, il y a un grand problème que beaucoup de gens ont regardé, en particulier Lazutkin, qui est mort il y a quelques années, qui est de savoir l'existence de ces intersections homoclines et de ces homoclinic tangles introduit ce qu'on appelle de l'entropie topologique. Alors, ça a été beaucoup étudié à partir de Smale et ce qu'on appelle le modèle du fer à cheval, où on comprend maintenant dynamiquement, même avant Smale, il y avait toute la dynamique symbolique de Birkhoff on comprend d'un point de vue topologique cette situation dans laquelle il y a ce qu'on appelle des exposants, c'est-à-dire des divergences exponentiellement fortes et des convergences exponentiellement fortes des orbites sur un ensemble infini qui correspond à ces intersections de ces variétés compliquées ici, mais on ne sait pas si ceci se produit sur un ensemble de mesures positives. Autrement dit, s'il y a une probabilité non nulle de tomber au hasard sur un point comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qui est un problème formidable. Maintenant, par exemple, la théorie d'Aubry-Mather. Alors, il y a eu la théorie de Birkhoff. La théorie de Birkhoff dit qu'entre deux courbes invariantes, ce qu'on appelle un domaine d'instabilité, on peut trouver des orbites qui asymptotiquement, enfin ça a été plutôt démontré par Mather sous cette forme raffinée, sont négativement asymptotes à la courbe invariante qui est un des bords de cette région et positivement asymptotes à l'autre. Alors aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux, et Vadim est l'un de ceux qui connaît le mieux cette situation, puisque ce genre de possibilité d'avoir des orbites qui diffusent d'un bord à l'autre et en fait avec une dynamique symbolique très, très précise, on peut savoir montrer qu'il y a des orbites qui passent vraiment par tous ces ensembles d'Aubry-Mather compliqués, eh bien c'est ce qui a permis à plusieurs groupes indépendants, en particulier Vadim et son étudiant Ke Zhang, de démontrer ce que John Mather a annoncé depuis longtemps, qui est ce qu'on appelle l'existence générique de diffusion d'Arnold dans les systèmes à 2,5 degrés de liberté. Ça commence avec Birkhoff qui montre cette possibilité d'orbite qui migre d'un bord d'une région d'instabilité à une autre. J'ai dit ça ?
Non,
je suis un computer illiterate.
Je pense que c'est vrai que les ordinateurs ont beaucoup apporté.
J'ai dit que maintenant, avec les ordinateurs, on a des images. J'aurais dû en mettre une, je suis désolé. J'ai pas pensé à ça. J'ai tellement peu l'idée de faire une présentation avec Beamer que je n'ai pas pensé à ça.
Oui, c'est vrai que les ordinateurs ont permis de comprendre intuitivement ce qui se passe. Mais comme le montre Alain, les résultats rigoureux, eux, ont été très lents. Finalement, depuis Poincaré, en une centaine d'années, les résultats arrivent tous les 20 ans ou tous les 50 ans. Quoi. C'est dans la compréhension de ce problème. Malgré la meilleure compréhension intuitive qu'on a à travers les simulations numériques.
C'est-à-dire que les simulations numériques permettent de voir des choses une fois qu'on sait ce qu'on cherche.
Et inversement.
Est-ce que ce dessin
Ça, ce dessin, je l'ai piqué dans un article que j'ai fait dans l'Encyclopédie Universalis, et j'avais dû le copier sur un dessin d'un article de Edith Zender, qui date des années 70.
Non.
Non, je ne sais pas qui le premier a fait ce dessin. Vadim, tu sais, non? Do you know who was the first to draw such a homoclinic tangle? Was it before the use of computers or after? Before? Birkhoff. He drew pictures like that? Yeah, I mean, he had this symbolic dynamics, so yeah. Yeah. So avant. Donc la réponse est avant. Ce qui me fait bien plaisir. C'était dans la, je crois que c'était peut-être la deuxième édition, enfin c'était il y a assez longtemps, dans les années 80. Mais il devrait être sur la version électronique, je pense, s'ils ne l'ont pas trop salopé.
Est-ce que les symétries qu'on voit là sont significatives ou bien est-ce que c'est un cas?
Non, les symétries sont significatives. Enfin, c'est pas vraiment symétrique, mais le problème, c'est que j'avais fait un dessin à la main et ensuite Universalis avait un dessinateur qui devait faire le dessin. Et bien sûr, il a fait des cercles ronds, il a fait des choses symétriques, mais ça n'est pas tout à fait. Il n'y a pas de symétrie pentagonale, mais elle est approchée. Plus vous vous rapprochez, plus mu est petit et plus ça s'en rapproche. Parce que pour la rotation, il y a, pour le mouvement non troublé, il y a cette symétrie. Donc l'article, ça s'appelle système dynamique.
Et je renvoie aussi les gens qui sont intéressés à l'article sur le problème des trois corps dans la Scholarpédia qu'a fait Alain Chancinaire et qui est aussi très remarquable. Merci Alain pour